Aujourd'hui, nous serons avec Gilles Mulhauser, l'auteur du livre « 100 ans de nature à Genève » à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Robert Hénard. Et nous parlerons également de la nature et du paysage dans le département du territoire. Et nous serons ensuite avec Claude Thébert pour parler de « Quand je mange de la crème fouettée » qui est un recueil de différents textes de Robert Walser qui ont déjà été mis en scène par Claude Thébert et Anne-Marie Delbar et qui seront présentés à la Comédie lundi prochain. Nous sommes aussi avec Audrey Schmitt. Gilles Mulhauser, bonjour.
Bonjour.
J'ai donné votre titre de directeur du domaine nature et paysage du département du territoire du canton de Genève, mais j'ai lu aussi sur un autre communiqué un titre un petit peu plus raccourci qui disait responsable du paysage genevois. Est-ce que c'est un raccourci significatif qui symbolise un petit peu votre activité ?
Alors je pense à une manière de faire court, mais c'est une lourde tâche, un lourd pari en fait, qui est de se déclarer responsable du paysage genevois, étant donné qu'il y a énormément d'acteurs qui en sont responsables. On pourrait citer les paysans, les architectes, les urbanistes, ceux qui gèrent effectivement les questions de communication et de transport. Là, il est entendu paysage au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage qu'on a toujours mis ensemble. Et puis c'est plutôt la notion des beaux paysages, des paysages protégés, qui était aussi chère évidemment à un aquarelliste comme Robert Hénard.
Alors sur toutes les professions, enfin les domaines, les disciplines que vous avez citées, des paysans jusqu'aux architectes, je suppose que vous voulez aussi dire que vous êtes en contact permanent avec eux pour votre tâche.
Alors effectivement, en fait, gérer la nature à Genève, c'est automatiquement s'insérer, je dirais, dans un contrat social, hein, dans un travail culturel, dans un travail avec moult professions. On parle effectivement des architectes, des paysans, mais on pourrait parler des pêcheurs, on ne parle peut-être plus des chasseurs, puisque en fait la chasse est interdite à Genève. Mais effectivement, c'est être capable, à mon avis, d'abord d'un dialogue social en fait avec tous ses partenaires. On n'est pas dans la grande nature québécoise perdue au milieu de la forêt.
Mais dans votre position, est-ce que vous êtes content de ce paysage ?
Bah, je crois que content, enfin c'est difficile à dire, le paysage en fait par définition est ce que chacun d'entre nous en perçoit, hein. Donc le paysage existe parce qu'il y a un homme qui le regarde, donc si vous êtes...
Est-ce que vous trouvez qu'il est en bon état, est-ce que vous prenez une bonne situation ?
Je pense qu'il y a des très belles choses, notamment en regard de ce que l'agriculture en a fait, des coteaux viticoles, des paysages de vergers, etc. Là où on peut effectivement être un petit peu plus gêné, c'est sur certains choix urbanistiques ou sur la disparition de certains milieux qui fait qu'on a des espèces de paysages non défini ou en devenir, sur lequel il faudrait prendre des options à partir des décennies qui viennent.
Nous avons commencé donc en citant l'ouvrage qui vient de paraître et dont vous êtes l'auteur, pour le 100e anniversaire de la naissance de Robert Hénard. Cette connaissance du paysage, lui, était un grand peintre animalier, mais il n'était pas seulement un peintre, il a également écrit. Est-ce que Robert Hénard fait partie de ces gens qui ont réussi à communiquer un petit peu cet amour de la nature au public ? Est-ce que grâce à lui, on s'est aussi ouvert à une préoccupation, je ne voudrais pas encore dire plus écologique, puisqu'on va en parler tout à l'heure ?
Alors, je crois qu'effectivement, Robert Hénard est par définition une personne passerelle. À plusieurs titres, au niveau de ses écrits, bon, qui sont relativement pointus, donc peut-être pas forcément accessibles à tout le monde, mais il y a effectivement la notion d'une civilisation en fait qui sera d'autant plus technologiquement avancée qu'elle aura été capable de conserver aussi la nature. Donc il a tout le temps, je dirais, mêlé la logique de civilisation et de culture humaine en fait avec le maintien de la nature. Donc ça, je pense que c'est un de ses messages principaux. Également sur le plan artistique, en fait, tout ce qu'il a rendu en termes d'aquarelle ou de gravure, il les a toujours voulu accessibles également en fait avec une technique qui permettait à chacun de s'acheter une gravure, en fait de multiplier l'œuvre qu'il avait proposée pour qu'un maximum de gens en fait puissent avoir ce contact avec l'image des paysages, l'image de la faune et de la flore en fait dans sa propre maison en fait.
Alors rappelons qu'il est né en 1906 et décédé en 1999. C'était un élève particulièrement précoce et qui a rencontré sa femme Germaine, je crois, et aux Beaux-Arts. Est-ce que cela signifie que ces deux étudiants amoureux des arts ont travaillé ensemble ou est-ce que lui a plutôt été solitaire dans son travail ?
Alors, je crois qu'ils ont énormément travaillé ensemble, pour peu que je sache. En fait, pour ça, on bénéficie d'une biographie hein, qui sort aussi ces jours. Donc, en relisant cela, puisque moi-même, j'ai pas pu fréquenter ces années-là, effectivement, on apprend qu'il y a eu un dialogue constant entre Germaine et Robert, qu'effectivement, ils partageaient le souci des techniques de peinture et autres, puisqu'en fait, ils se sont connus quand Germaine suivait les cours du père de Robert Hénard, donc Philippe Hénard.
Donc, le père était déjà un artiste.
Le père était un artiste reconnu. Effectivement, disciple de Barthélemy Maine, donc ça va rechercher dans des périodes aussi telles que Hodler, etc. Donc on est vraiment dans une famille d'artistes qui discutent, qui dialoguent et autres. Là où il y a une séparation ou un côté solitaire, c'est que Robert Hénard, évidemment, faisait ses expériences de nature à l'affût, les nuits à la Belle Étoile, et que là, souvent, c'était soit avec des très bons amis, Jacques Burnier, Maurice Blanchet ou autres, de temps en temps, effectivement, aussi avec son épouse. Mais je pense qu'il y avait aussi d'autres soucis.
Mais ce personnage, donc Robert Hénard, qui était, si on peut dire, véritablement un grand amoureux de la nature, dont le père était artiste, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a un petit peu prédisposé à cette carrière, si on peut dire, d'animalière ou de peintre de la nature?
Il faudrait pouvoir se réentrer en fait dans les neurones qui étaient certainement assez complexes d'un personnage comme Robert Hénard. Quand on lit tout ce qu'il a écrit ultérieurement, je pense que ce qui l'a amené en fait à développer cet amour de la nature, cette immersion en fait dans la nature. C'est comme il le dit lui-même, hein, quand vous vous mettez, en fait, quand vous vous soumettez aux forces de la nature, comme la bête se fait rudoyer par le vent, par la bise, par les eaux, etc., vous vous libérez, vous vous épurez, vous gardez l'essentiel. Donc ça vous met dans une position de réflexion philosophique qui, à mon avis, a dû lui plaire assez rapidement. Je pense qu'il a jamais tellement frayé avec les groupes, avec les foules, etc. Donc évidemment que pour toute sa réflexion philosophique et puis ensuite son approche artistique, il a eu automatiquement la nature qui lui a donné un écho important. Oui.
Donc, il laisse un grand œuvre, hein, je crois. Il a 30 000 dessins, 1000 gravures, 3 ou 4 000 aquarelles et quelque chose que vous n'avez pas mentionné dans le catalogue, puisque c'est peut-être l'objet d'un autre travail, ce sont aussi ces sculptures. Ce travail, pendant de nombreuses années, n'était pas reconnu, non pas dans le sens de sa valeur, mais c'est simplement que dans les beaux-arts, les peintres animaliers ne sont pas qualifiés, n'ont pas la même cote que les autres. Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous avez entendu dire, est-ce qu'il a souffert un petit peu de cette difficulté de classement ou de ce rejet?
Alors, je crois qu'il a pas énormément souffert de cela, dans le sens où on peut lire aujourd'hui qu'il a une détermination, où il attend pas forcément des autres, je dirais, de faire son chemin. De ce que j'ai pu lire également, autant Germaine que lui ont été largement reconnus d'emblée par leur père. Hein, quand vous regardez le nombre de concours qui ont été gagnés, donc des concours très officiels, hein, le concours Calam, qu'on peut pas qualifier de peintre non reconnu. Donc quand vous gagnez ce genre de concours, en fait, au fond, avec un art animalier ou un art figuratif, on sait que ça a créé des jalousies auprès de personnes qui s'attachaient à d'autres formes plus abstraites, en fait, artistiques. Mais je crois qu'il a été largement reconnu dès le départ, hein, dès son plus jeune âge. Donc je pense pas qu'il ait eu énormément à souffrir. Là où on pourrait être frustré, je dirais, c'est dans la situation actuelle ou peut-être de ces 20 dernières années, où on se demande pourquoi un bonhomme qui a laissé autant de richesses et autant de valeurs, un art aussi abouti, aussi consommé, en fait, n'est peut-être pas reconnu dans certains courants de pensée ou certains courants artistiques aujourd'hui. Je pense qu'il a une place énorme, en fait, dans ce qu'il a amené à la culture genevoise. Et puis je pense que ce serait faux que de le résumer à un artiste animalier figuratif.
D'ailleurs, vous disiez, je ne sais plus si c'est vous ou son frère, lors de la présentation, où vous disiez que Robert Hénard disait qu'il avait fait autant de peintures de blaireaux que de nus de sa femme, mais qu'il était seulement connu comme peintre animalier.
Effectivement, c'est ce qu'il aime bien rappeler lui-même. Et puis c'est Nicolas Crispini qui disait que, selon lui, effectivement, certains portraits, certains nus avaient une force qui était équivalente à ce qu'on pouvait voir chez un Matisse ou d'autres types d'artistes.
Nous conservons, enfin, en mémoire, et d'abord dans ce livre, toutes ces reproductions d'aquarelles ou de dessins. Est-ce que le reste de sa production qui ne touche pas aux animaux est aussi diffusé?
Alors, je pense qu'elle est moins connue, mais il me semble que systématiquement, soit la Fondation Hénard, soit la famille ou lui-même, dans son travail, dans les expositions qu'ils faisaient ensemble avec Germaine, ils ont veillé effectivement à exposer les portraits, les bustes, etc. Donc la partie humaine a été largement aussi exposée. Ouais.
Gilles Musehauser, ça fait 100 ans qu'existe le poste de collaborateur en charge des forêts et la loi fédérale a été promulguée en 1966. C'est un chemin tranquille vers une reconnaissance de la valeur, si l'on peut dire ainsi, du paysage.
Ouais, tranquille, en fait, on a l'impression quand on voit effectivement ces chiffres que ça a été tranquille, mais ça a été quand même vraiment un système par palier, par succession. 1906, c'est surtout en fait la nomination de l'inspecteur cantonal des forêts, hein, suite au problème de déforestation qu'on connaît dans toute la Suisse, des paysages totalement chauves, sans arbres, des inondations, des glissements de terrain. Donc ça, tous les cantons se mettent au pas pour essayer de respecter la protection des forêts. 1966, c'est la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, où là, il y a une connotation alors beaucoup plus de patrimoine, essayer de préserver les beaux paysages, les beaux bâtiments, etc. Donc c'est une deuxième étape. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres qui se sont accélérées depuis, donc dans les années 80, 90, avec l'initiative Rothenturm en 87, où là, il s'agit de protéger les marais. Donc on va de plus en plus en zoom et on va vers la protection des écosystèmes, des biotopes, de sites précis, parce qu'on se rend compte qu'il nous reste plus qu'un pour cent des sites parfois. Par exemple, les marais en Suisse, il vous reste plus qu'un pour cent de la surface d'origine.
Il faut rappeler qu'auparavant, disons juste après la guerre, le paysage était, comme vous le disiez, il était chauve, il y avait très peu de forêts et de bois.
Alors effectivement, donc dans les années 45, 46, en fait, vous avez toute la population suisse qui, n'ayant pas d'ouverture sur l'extérieur, doit s'approvisionner pour se chauffer un minimum l'hiver. Donc nos bois, qui étaient des taillis, en fait, étaient des collections de baguettes, des rejets sur souche, etc., avec des arbres qui commençaient à s'épuiser. Et puis depuis, en fait, on a changé de paradigme, on essaie de proposer des forêts de plus haute futaie, donc avec une image à terme d'ici 100 ans de grandes cathédrales, comme on peut les imaginer dans des forêts mythiques. Mais donc le chêne, normalement, est destiné à devenir comme ça, mais actuellement, on est dans une phase de transition. Et c'est vrai que quand vous vous promenez aujourd'hui et quand vous vous promenez il y a 50 ans en arrière, vous avez une image qui a radicalement changé en forêt.
Mais il y a eu une prise de conscience à un moment précis où il était décidé, est-ce que c'est au moment de la loi fédérale de 1966 ou auparavant, où il a véritablement été décidé de faire un travail peut-être, vous n'aimez pas le terme, de paysagiste?
Alors, je crois que là, il y a eu une forte volonté politique et il y a eu effectivement un ou deux collaborateurs de l'État qui ont travaillé avec le conseiller d'État en charge pour reconstituer la forêt genevoise, acheter des parcelles. Donc, vous avez 3000 hectares à peu près de forêt à Genève. Au début du siècle, il n'y avait quasiment rien qui était en propriété publique. Maintenant, vous avez la moitié de cette forêt qui joue des rôles évidemment publics, hein, pour l'intérêt collectif, loisirs, cueillette de champignons, enfin j'en passe et des meilleurs. Et là, l'État en fait a fait le pas d'en acheter la moitié à peu près sur ces 50 dernières années. Et je pense que là, on offre un capital à la population genevoise en ayant réussi à reconstituer en fait cette forêt genevoise.
Et comment a évolué le terme et la réception dans le public de nature, même si l'on peut utiliser ce terme, à une époque où il n'était probablement pas respecté, où on l'estimait simplement au service de l'homme, et maintenant avec les nouvelles préoccupations écologiques, où au contraire c'est carrément devenu écologie reine.
Alors bon, c'est vrai que autant écologie que nature, hein, sont des termes qui pour chacun d'entre nous en fait signifient autre chose. La nature, personnellement, j'aime bien la définir comme étant la part qui n'est pas contrôlée par l'homme. Donc c'est tout le spontané, on va dire. L'écologie, c'est déjà plus en fait une logique de prise de conscience, hein. C'est un engagement social à respecter les écosystèmes naturels, un certain nombre de cycles qui peuvent permettre une régénération. Et partant de là, bah, la nature est une, enfin la protection de la nature plus précisément est une partie en fait de la démarche écologique. Et je pense que cette démarche-là, elle est autant environnementale que sociale que économique, hein, puisque vous devez garder des ressources. Hein, pensez simplement aux pêcheurs sur le lac. Si vous épuisez la ressource, bah, évidemment, vous tuez une filière économique.
Et alors ce lac, Audrey, justement, vous êtes penchée sur le sujet.
Oui, voilà, au niveau de sa représentation, on pourrait difficilement imaginer aujourd'hui une carte postale de Genève, justement, sans le lac Léman. Et on parle même chez nos voisins français du lac de Genève. Alors pourquoi le lac Léman est-il occupe-t-il une position aussi importante dans l'image qu'on se fait de Genève, que ce soit même dans notre canton ou dans les pays étrangers?
Alors bon, d'abord, peut-être la réponse la plus, de l'élève appliqué en géographie, le lac Léman, plus grand lac européen, en tout cas lac continental, on va dire. Deuxième chose, en fait, c'est un lac qui fait le trait d'union entre le massif alpin et puis un tout petit peu le Jura quand même. Quand il arrive justement du côté de Genève, c'est l'endroit où il est le plus proche du Jura, donc ça veut dire que ça crée automatiquement une diversité biologique. Quand vous le considérez, quand vous êtes sur le Jura, que vous regardez le lac en direction du Mont Blanc, vous avez un paysage d'un certain type. Quand vous le regardez dans l'autre sens, vous avez un autre. Donc c'est aussi un facteur, d'esthétique et de valorisation, notamment artistique. Hein. Vous avez tellement d'artistes, des romantiques, à d'autres qui ont fait ces paysages. Et puis c'est aussi là que se sont, installées certaines, grandes familles avec les grandes propriétés pour avoir cette vision sur le Léman, etc. Donc le lac est central en termes d'écologie, en termes d'écosystème, en termes artistiques, en termes culturels et paysagers.
Est-ce que véritablement il était dans ses mœurs d'avoir une vision sur le lac? Parce que si l'on regarde le parc Lagrange, par exemple, quand on est dans la villa, on s'aperçoit que les bois qui descendent vers le lac ferment au contraire la vue.
Alors bon, peut-être qu'effectivement, dans certains cas, les écrans se sont fermés. Dans d'autres, en fait, les droits de vue ont été maintenus. Hein. À une époque, certains avaient même mis en place des droits de vue. Je pense que les grandes visions sur le Mont Blanc, en fait, depuis l'autre côté, sont visibles. Le parc Lagrange, je ne peux pas expliquer effectivement quels ont été les choix successifs qui fait qu'on a peut-être masqué des écrans aujourd'hui. Ouais.
Malgré sa fonction emblématique, il a pourtant pendant longtemps été en mauvais point à cause des fortes charges en eau usée qu'on y déversait. Quelle est la situation aujourd'hui du point de vue écologique du lac?
Alors en fait, c'est vrai que le lac, on peut diviser sa vie dans le siècle en trois périodes. Hein. 1900-1960, pas d'énormes problèmes, on va dire. 1960-1980... une grosse pollution, une grosse charge en phosphate notamment, qui amène en fait des développements de phytoplancton et d'algues qui sont pas souhaités, prise de conscience, mise en place de mesures à l'échelle de tout le bassin versant, constitution de la Commission internationale pour la protection des eaux en 1962, la CIPEL, et puis aujourd'hui, on peut dire que depuis 20 ans, le lac récupère gentiment, qu'on s'est mis en place des indicateurs, comme tout bon gestionnaire d'ailleurs, on a un plan d'action avec des indicateurs et des potentiomètres, et puis on peut vous dire exactement si pour le phosphate ça va mieux qu'avant, etc. Donc là il y a une progression, mais il y a effectivement deux, trois sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de travail.
Alors on dit que le lac a besoin d'être brassé, ça n'arrive que très rarement, je crois, d'après les documents, que c'est arrivé 5 fois en un siècle.
Oui, effectivement.
C'est ce qui se produit lors de, non pas de catastrophes, mais lors de grands bouleversements climatiques.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une forte convection hein, qui permet simplement un brassage des masses. Il faut que les eaux de surface soient très froides pour qu'en fait elles soient lourdes et puis qu'elles partent en profondeur. À ce moment-là, elles prennent l'oxygène qui est en surface et puis elles peuvent le redistribuer jusqu'aux sédiments. Donc comme vous avez parfois des formes de vie qui vivent à 80 mètres, 100 mètres de profondeur, si ces sédiments sont pas oxygénés, vous avez le lac qui perd un petit peu en fait de sa vie en profondeur.
La situation écologique des berges n'est pas plus épargnée puisqu'il reste aujourd'hui moins de 10% de portions naturelles de berges. Donc comment on peut concilier le besoin d'urbanisme et la protection de nature dans ce cas précis?
Alors bon, ouais, c'est une question assez difficile. En plus, le pourtour du lac, comme vous le savez, il y a en tout cas 4 États qui sont concernés, hein, entre le Valais, Vaud, Genève et puis la Haute-Savoie. Chacune a des dispositions légales un peu différentes. Certaines...
Toutes les discussions sur la transfrontalité, etc., ça va être le grand amour.
Oui. Alors la CIPEL est en train d'étudier actuellement les possibilités de renaturation qu'on pourrait avoir sur les rives, mais ça dépend évidemment ensuite de la situation foncière. Quand vous avez un pourtour de rive qui est fortement occupé par les grandes propriétés privées, vous devez avoir un certain type d'action. Quand vous avez les collectivités publiques qui possèdent l'entier du bord du lac, en fait, vous pouvez avoir des facultés de renaturation qui sont plus fortes. Quand vous avez un lac qui part à pic tout de suite, comme à Saint-Gingolph, ou bien un lac qui, en fait, a une benne lacustre qui s'étale sur 50 ou 100 mètres, vous avez des facultés de régénération qui sont différentes. Donc, il faut considérer ces éléments-là. Et puis, un dernier élément qui est très important pour la renaturation des rives, c'est, en fait, l'effet de la bise. On s'est rendu compte que même si on voulait recréer des roselières dans le petit lac Genevois, par exemple, on aurait énormément de peine parce que la bise, en fait, a créé une grande vague qui érode, en fait, certains milieux naturels en bordure de rive. Donc aujourd'hui, on est, à partir du moment où ces milieux ont été détruits, on est obligé de garder une forme d'enrochement pour pas que la rive s'en aille complètement.
Et à part la bise, est-ce que le plus grand ennemi ne serait pas l'homme ?
Alors, l'homme est effectivement a son impact sur la nature, hein, mais c'est aussi en fait un ami, hein, dans le sens où quelque part, parfois il faut constater certains dégâts pour commencer à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a des programmes de renaturation qui sont en cours à Genève, qui démontrent que effectivement on trouve quelques hommes amis de la nature de toute manière. Là pour le lac, j'insiste sur le fait qu'il y a un certain nombre de difficultés juridiques par rapport à la propriété foncière. Hein. Normalement, vous devriez pouvoir passer de manière libre le long de toutes les rives du lac, ne serait-ce que pour assurer la pêche, par exemple. Mais évidemment que ça se heurte à des difficultés de sécurité dans certains cas ou de propriété privée dans d'autres.
Il y a une bonne nouvelle quand même, puisque la faune, elle, ne semble pas se porter trop mal. Par contre, quelques problèmes sont survenus apparemment au niveau de l'introduction d'espèces non indigènes qui mettent parfois en péril la survie des espèces indigènes. Donc, comment peut-on réagir à ce phénomène ?
Alors bon, il y a des cas où les espèces qu'on a réintroduites, leur développement est tellement fulgurant que vous avez soit que vos yeux pour pleurer ou bien vos moyens financiers pour essayer de sauvegarder ce qui peut être sauvegardé. Dans d'autres cas, on est surpris, certaines espèces apparaissent et puis elles restent pendant une centaine d'années ou plusieurs décennies quasiment insignifiantes, puis tout à coup elles explosent. Donc en fait, à ce moment-là, vous devez être très attentif simplement au moment où une espèce pourrait éventuellement exploser. Puis il y en a d'autres qui sont introduites, qui s'acclimatent et puis qui restent en fait relativement peu fréquentes et qui posent pas de problème. Le problème principal qu'on a, c'est sur les écrevisses, puisqu'en fait, en plus, ça a amené des maladies et puis en fait, ça a détruit les écrevisses locales.
Alors depuis le lac, bien sûr, après, il nous reste à parler du Rhône, qui est également, qui fait l'objet justement de grands soins avec l'organisation même à côté des berges de réserves qui permettent aussi au public de prendre conscience des travaux pour la protection.
Oui, alors en fait, vous avez deux démarches, hein. Vous avez une démarche de protection qui est liée, par exemple, au fait que énormément d'oiseaux qui viennent de toute l'Europe fréquentent le Rhône en hiver et que le Rhône est quasiment un des grands centres européens, en fait, d'hivernage pour les oiseaux d'eau. Donc là, vous avez des dispositions de protection qui ont été prises et on essaie de communiquer cela à la population.
Est-ce que c'est le meilleur moment, donc, cette saison d'hiver pour aller voir les oiseaux dans les réserves qui sont près de Russin?
Alors ça va commencer, hein. Vous irez sur le barrage de Verbois à partir de fin octobre, vous commencerez à voir les flocs de canards qui en fait viennent se poser sur le lac et puis vous pouvez les observer. Et puis il y a encore un deuxième élément, c'est qu'évidemment comme le Rhône, on en profite à titre de l'électricité. En fait, les concessions qui ont été installées sur le Rhône aujourd'hui donnent lieu à un examen environnemental et parfois le concessionnaire doit mettre en place des mesures en fait dites de compensation et c'est là où parfois on est amené à recréer des milieux, ce qui a été le cas ces dernières années, en espérant évidemment augmenter la richesse du Rhône encore.
Et en même temps, donc, tous ces travaux sont portés à la connaissance du public. Il y a un gros travail d'information qui est fait.
Alors, il y a des travaux d'information qui sont faits soit par les entités effectivement responsables des concessions, soit par des panneaux sur les lieux pour que les gens puissent reconnaître les oiseaux, par exemple.
Est-ce qu'ils respectent le paysage ? Est-ce que vous trouvez que tout se passe bien ?
Le long du Rhône, oui, je pense, en fait. Là où on est surpris, c'est souvent quand vous faites des interventions pour stabiliser un chemin, pour exploiter la forêt, etc. En fait, souvent, si vous n'avez pas informé la population au préalable des travaux que vous allez entreprendre, il y a une grosse réaction parce que les gens s'habituent à un certain type de paysage naturel et quand tout à coup, ils voient qu'il y a des abattages, ben, ça peut poser un problème. Donc là, il y a un travail d'information obligatoire à faire.
Alors, je rappelle, Gilles Mulhauser, que nous parlions de ce livre 100 ans de nature à Genève qui est paru aux éditions Slatkin, qui est fait en hommage au centenaire en hommage à Robert Reynard à l'occasion du centenaire de sa naissance. Et concernant le département du territoire, le domaine nature et paysage, vous pouvez trouver des renseignements sur le site web www.ge.ch/nature. Gilles Mulhauser, merci.
Merci bien.